qui dégénère, surenchère au prime time pour filmer la bataille. Histoire banale, dont les pans de la cour royale, aimant le jeu de loi, tireront la morale. Mais prenez ces mêmes pans au grand discours et foutez-les dans la basse-cour. Laissez-les sur la paille, sur la dalle, avec la dalle. Au bout de très peu de temps, rien à faire, que dalle, y'a pas foule. Les pires cocottes deviennent toutes des chacals dans une cage à poules.
Que tu veux encore, c'est ça la matraque que tu veux. T'as pas ou pas? Tu l'as
vu tout à l'heure?
Tu es pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux.
Bah les masques, les pharmaciens n'en ont plus, alors nous voici à voix découverte sur l'antenne de Radio G 101.5 FM pour Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers et du Maine-et-Loire. Et pour vous accompagner pendant une heure, une équipe presque au complet. La voix féminine de cette émission, celle qui préfère un hug plutôt qu'une bise, et elle a bien raison par les temps qui courent, Anne Le Teint Frais, la mine radieuse. Bonsoir Anne.
Bonsoir et hug à tous.
Merci. Avec nous, le plus discret de l'équipe, vacciné contre les problèmes techniques, le cool, le sage, le charmant, le solide, Achille. Bonsoir Achille.
Bonsoir Arnaud.
Et votre serviteur qui tente de faire sourire avec ce qui pourrait bien nous faire pleurer dans les semaines à venir. Mais réjouissons-nous pour l'heure, c'est l'info LGBT qui va faire monter la température et avec, je l'espère, beaucoup de bonne humeur à transmettre.
Et le public.
Merci, oui, cher public. Mohamed a fait ses réserves de riz, d'attiéké et de farine de manioc et ce soir, eh bien, il reste au fond de son lit. On l'embrasse et on lui souhaite un prompt rétablissement. Anne, ce soir, va nous parler d'égalité à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, célébrée le 8 mars prochain. Une bonne partie de l'émission sera consacrée à ce moment. Les femmes seront donc à l'honneur et nous nous en félicitons. Achille nous parlera de la condition des livreurs de repas à domicile, parmi eux, des gays à la situation bien précaire. Vous apprendrez peut-être à regarder différemment celui qui pédale par tout temps pour vous apporter votre pizza ou votre burger. De mon côté, pour illustrer une preuve flagrante d'inégalité, je reviendrai sur l'affaire Mila et celle de Benjamin Griveaux. Mais pour commencer cette émission, quelques news, l'actualité LGBT.
Et tu commences cette série brève par une bonne nouvelle, Arnaud. Une fois n'est pas coutume.
En effet, Achille, nous avions rapporté ici, un peu avant Noël, qu'Agnès Sirigili, cette élue d'opposition de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, était poursuivie par des tweets jugés injurieux à l'égard des personnes LGBT. Une plainte avait été déposée le 4 avril de l'année dernière par les associations Mousse, Stop Homophobie, Adeos, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT. Eh bien, elle a été condamnée, Agnès Sirigili, enfin.
Peux-tu nous lire les tweets qui ont fait l'objet de la poursuite?
Eh bien, les voici, Achille, accrochez-vous. Alors, je la cite. Le lobby LGBT, comme dans toute secte, a élaboré un savant mélange de doctrines pseudo-scientifiques au service d'une volonté d'influence et de pouvoir en utilisant les moyens les plus sophistiqués et les plus cyniques à l'âge des réseaux sociaux, du mensonge et de la propagande. Un second disait ceci, un classique de la rhétorique des activistes LGBT pour soumettre élus et citoyens au silence. Deux points. Les calomnier médiatiquement, les accuser de fake news, les menacer sur Twitter. Quand le gouvernement prendra-t-il au sérieux les méthodes dangereuses de ce lobby infâme et pervers? Et enfin, le troisième, en 1941, le nazi Heydrich impose à tout juif de plus de 6 ans de porter l'étoile de David sur son vêtement. En 2019, la secte LGBT impose à tous ses membres de porter un pansement arc-en-ciel sur le visage pour afficher son prosélytisme et son communautarisme sexuel. Honteux! Après ces trois tweets postés entre le 25 et le 29 mars, c'est près de 40 autres messages mensongers et homophobes que l'élu a continué de poster.
Peux-tu nous rafraîchir la mémoire avec des morceaux choisis, Arnaud ?
Eh bien, quelques-uns au hasard, si vous voulez. Le 21 mai et le 24 juillet, elle a posté le message suivant. Le drapeau LGBT devrait être interdit dans l'espace public. Il ne représente ni île, ville, province, région ou pays, juste un hobby mondialiste, sectaire, hétérophobe et anticlérical qui œuvre à la promotion de pratiques sexuelles subversives. Bravo à ceux qui lui résistent. À ce sujet, elle a publié, pas plus tard que la semaine dernière, qu'elle souhaite interdire le rainbow flag dans sa ville. Le 6 juillet, toujours sur Twitter, elle se réjouissait de l'arrivée des zones anti-LGBT en Pologne, dont nous vous avons déjà parlé ici. Le 27 juillet, elle écrivait, je la cite, « Le lobby LGBT est misogyne. Il déteste la couleur rose, la couleur qui symbolise la tendresse et la féminité, la couleur préférée des petites filles. Elle a été enlevée sciemment de leur drapeau arc-en-ciel tant leur détestation des femmes est puissante. » Et le 1er août, elle adresse le message suivant. « La parentalité sociale est une mascarade. L'homme est réduit à n'être qu'un donneur de sperme, tandis que des couples lesbiens élèvent leurs enfants dans un matriarcat misandre et indigne. »
Merci Arnaud. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette plainte ?
Eh bien, Agnès Sergili, je vous le disais, donc a été condamnée. Elle comparaissait le 20 janvier dernier au tribunal correctionnel de Versailles et celui-ci a rendu son verdict le lundi 17 février en condamnant donc l'élu à 4000 euros d'amende, dont 2000 avec sursis, à 1000 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des 5 associations parties civiles, à 600 euros de frais de procédure à verser à chacune des 5 associations parties civiles. Pour être complet, ajoutons qu'elle a été relaxée des chefs de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'orientation sexuelle pour le message du 25 mars 2019 que je vous ai lu il y a un instant et dans lequel elle qualifiait le lobby LGBT de secte faisant usage du mensonge et de la propagande pour faire avancer sa cause. En revanche, malgré plusieurs dizaines de tweets insultants, diffamatoires et haineux à l'encontre des personnes LGBTI+, du gouvernement, eh bien, seule Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, avait réagi. Pourtant, il n'aura fallu qu'un seul tweet, dimanche 16 février, pour que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sorte enfin de son silence pour condamner la nouvelle déclaration nauséabonde de l'élu de Saint-Germain-en-Laye. Le ministre déclare alors, je le cite, « S'habituer à ce genre de dérapage, rester impassible face à des propos aussi répugnants, c'est faire gagner la haine et reculer la République. » En ajoutant qu'il avait signalé ce nouveau tweet au procureur de la République. Et que disait ce message d'Agnès Sergili, cette fois au sujet des élections à venir ? Eh bien, je vous le lis, je la cite. Donc, vouloir que Paris et Marseille soient dirigés par des maghrébines de confession musulmane, c'est trahir la France, son identité et son histoire. Une preuve qu'homophobie et racisme n'ont pas la même valeur aux yeux de ceux qui nous gouvernent.
Toujours en France, à Lille précisément, tu vas maintenant nous parler de la transphobie, Arnaud.
C'est bien ça, Achille. Oui, toutes les personnes trans subissent de la discrimination et sans doute bien plus de haine, décomplexée et d'agression physique que bien des gays et des lesbiennes. Cassandre nous en donne une nouvelle fois la preuve. Ce jeudi 6 février, alors qu'elle se rend chez le coiffeur, dans les couloirs du métro, elle se trouve face à deux contrôleurs, des agents du réseau de transport de la métropole lilloise, la société Ilévia. Elle raconte alors à France 3 Hauts-de-France... Un agent m'a regardé avec insistance, je suis plus ou moins habitué à ce type de regard, mais là, il avait un sourire narquois. J'ai demandé alors s'il avait un problème et pourquoi il me fixait. Il m'a répondu, je ne te fixe pas, en me tutoyant. L'un des deux agents l'a alors appelé, monsieur, madame, avant d'ajouter, je n'ai pas d'a priori, je regarde qui je veux, me fais pas chier ta pète. Le second contrôleur, pas plus malin que son collègue, lui dit alors, ce n'est pas marqué sur ta gueule que tu es une femme. En colère, Cassandre s'éloigne des deux agents, non sans leur adresser des doigts d'honneur. Trois jours plus tard, elle porte plainte et déclare, c'est la première fois que je porte plainte, j'avais déjà vécu des situations similaires qui sont même allées jusqu'à l'agression physique auparavant, mais là, c'était le regard et les paroles de trop, j'en ai assez de me laisser faire. Bon courage à Cassandre dans cette démarche et à toutes les personnes trans pour qui ces situations sont trop fréquentes et pas assez sanctionnées. Et je profite de cette actualité pour rappeler que nous avons un pôle juridique à Quasar que vous pouvez nous contacter pour être conseillé, accompagné à l'occasion d'un dépôt de plainte et dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors n'hésitez pas.
Tu nous amènes maintenant au Pays Basque pour nous parler de sport et homophobie. Encore une fois.
Et oui, je suis désolé, malheureusement, l'homophobie s'illustre sans arrêt dans l'actualité. Et cette fois, eh bien, c'est pour vous parler du président du club de rugby Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldiger. Vendredi 14 février, il s'en est pris à un élu de la ville, Guillaume Baruc, sans doute parce que ce dernier a émis des réserves sur un plan de sauvetage financier du club. Alors, quand l'élu commente un post Facebook qui parle de la victoire de Biarritz contre le club de Vannes, le fameux Jean-Baptiste Aldiger lui répond « Elle est pour toi et ta copine Amigorena, fossoyeur ». Fin de citation. François Amigorena étant un autre conseiller municipal biarrois. Guillaume Baruc dénonce dès le lendemain matin les insinuations homophobes.
Je crois qu'il existe une association LGBT très active dans le Pays Basque. A-t-elle réagi ?
Oui, Achille, nos amis de l'association Les Bascos ont attribué un carton rouge à Jean-Baptiste Aldiger en déclarant « Quel sens a pour lui le mot homophobie ? Sa définition de l'homophobie n'est-elle pas à géométrie variable et totalement opportuniste ?» Point d'interrogation. L'association des Bascos rappelle que la ville de Biarritz subventionne fortement ce club et demande à l'ensemble des élus et candidats aux élections municipales de siffler la fin de cette pathétique séquence. La quête de voix ne saurait justifier un silence complices, ajoutent les Bascos. Et l'association en profite pour rappeler qu'en mars 2019, comble du comble, Aldiger avait été victime d'une vidéo diffusée par des supporters du club voisin et concurrent de l'Avironnais Bayonnais, le traitant de PD. Le joueur international avait alors déposé une plainte pour injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle. L'association Les Bascos avait alors dénoncé la vidéo et s'était empressée de proposer aux clubs locaux d'engager une campagne contre l'homophobie dans le sport. Et Les Bascos nous rappellent aussi que, je cite le communiqué, hein, « Si avec l'Aviron Bayonnais, donc le club adverse du Biarritz Olympique, une convention a été signée et un débat à ce sujet est à venir, en revanche le président de Biarritz Olympique, le fameux Aldiger, a systématiquement décliné cette proposition. Et donc les Bascos s'interrogent maintenant comment quelqu'un qui se dit victime d'homophobie peut-il tenir de tels propos ? Dans le journal Sud-Ouest du 18 février, le président du club incriminé s'est défendu de toute accusation d'homophobie qu'il qualifie de procès d'intention. Et il ajoute « Je réitère ce que j'ai dit, cela n'a rien d'homophobe, j'assume ». En revanche, contacté par le site web Têtu, la Ligue nationale de rugby n'est pas du même avis et condamne les propos de Jean-Baptiste Aldiger. C'est peut-être moins évident pour la plupart des gens que quand des termes plus crus comme PD ou enculé sont utilisés, mais ça reste à connotation homophobe. Utiliser la féminisation pour parler de personnes masculines, c'est souvent ce que l'on fait pour dénigrer les homosexuels. Fin de citation.
Voilà ce qui va faire un peu d'ombre aux espoirs sportifs et du club. C'est bien mérité.
En effet, Achille.
Nouvelle technologie et police à présent.
Eh bien oui, nouvelle technologie et police, hein, c'est intriguant. À l'heure des réseaux sociaux, du piratage informatique, du cyberharcèlement et des revenge porn, nous sommes plutôt habitués à recevoir des recommandations nous invitant à nous méfier de ces nouvelles technologies. Eh bien une fois n'est pas coutume, la police nous invite à les utiliser pour nous protéger et nous défendre. En effet, l'association de policiers et de policières LGBT+, FLAG, va lancer prochainement une application pour faciliter les signalements d'actes homophobes depuis son iPhone ou smartphone. L'application devrait permettre aux victimes et aux témoins de LGBT-phobie ou de sérophobie de faire un signalement anonyme. L'objectif étant de rendre ce signalement facile. Comme le note l'association dans un communiqué publié sur le blog de la préfecture de police le 19 février, seulement 4% des victimes d'injures ou d'agressions LGBT-phobes osent parler, que ce soit en portant plainte ou en s'ouvrant aux associations. L'application devrait donc permettre aux victimes comme aux témoins d'insultes, d'agressions, de violences conjugales ou de discrimination, de réaliser un signalement qui sera daté et géolocalisé pour dresser une cartographie des violences LGBT-phobes et tenter d'enrayer la progression de celles-ci. La victime ayant effectué un signalement sera orientée selon sa volonté sur un dépôt de plainte ou une pré-plainte en ligne. Un signalement Pharos, qui est l'organisme qui centralise les signalements de contenu inapproprié ou illicite sur le web, ou encore vers la plateforme des violences sexistes et sexuelles ou encore une fois des cellules d'écoute. Tous les moyens sont bons pour libérer la parole des victimes et des témoins. Alors rendez-vous le 28 mars sur l'Apple Store et le Google Play Store de votre mobile pour le téléchargement de l'appli qui devrait s'appeler FLAG.
Et comme le nom de l'association, de cette association de policiers et policières LGBT+.
C'est bien ça, chez Louis.
Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je rappelle que Quasar peut aussi vous accompagner et vous êtes victime d'insultes et d'agressions.
Absolument, tu fais bien de le rappeler, nous ne le dirons pas assez, portons plainte, attaquons, poursuivons les homophobes. Et je passe la parole à Anne pour l'actualité de ces derniers jours, c'est à toi Anne.
Alors, juste une petite précision sur une des news que tu as donné, la première d'ailleurs, Madame Guili-Guili, là, machin. Série Guili, en fait, elle est très drôle avec son histoire de rose et de bleu et de machin, parce que ça date des années 50, hein, à peu près. Avant, depuis le 12e siècle, avant d'habiller les enfants en blanc, parce que les couleurs, ça coûtait cher, et qu'ils soient garçons ou filles, et tout le monde en robe. Bon. Et ensuite, on a mis la couleur bleue aux petites filles, couleur virginale. Pourquoi bleu ? Eh ben parce que on faisait cette couleur avec de la poudre de lapis-lazuli, ça coûtait aussi cher que l'or. Et la Vierge méritait bien ça. Et donc les petites filles et les garçons, pourquoi en rose ? Ben rose, on n'appelait pas ça rose, on appelait ça rouge incarnat, comme la peau. C'était la représentation du sang, de la virilité et tout, et tout. Donc c'est dans les années 50 que l'inversion a eu lieu, soudainement, on a décidé. Alors, l'histoire des roses pour les filles, les machins, les trucs, madame, s'il te plaît, avant de dire des bêtises très très grosses, bon, bah, vérifie au moins quelques petites infos, comme rose et bleu, par exemple. C'est pas compliqué, c'est des couleurs, t'as appris à la maternelle.
Absolument.
Alors, bon, après cette légère digression non prévue dans mes brèves, mes flûtes, j'aime bien apporter cette précision sur le rose et le bleu, je le dis à tout le monde. Nous allons donc partir en Écosse.
Bien.
Mais oui, 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 oui. Donc il y a une drag queen qui s'appelle Flo Job. Alors autant vous dire que c'est un habile jeu de mots sur Blow Job, qui signifie pipe, pompier, fellation. Et a été invitée dans une école. En fait, elle a lu une histoire à des enfants d'une école primaire écossaise pour marquer le mois de l'histoire LGBT qui a lieu en Écosse. Et en fait, les autorités locales ont présenté leurs excuses aux parents de l'école Glencoats à Glasgow, parce qu'ils s'étaient plaints que la drag queen, connue sous le nom donc de Flo Job, ait posté des photos de cet événement sur Twitter, où elle avait aussi diffusé des images dans des tenues suggestives ou simulant une fellation. Le contenu sur les réseaux sociaux associé à l'intervenant n'est pas approprié pour les enfants, ont déclaré les autorités locales dans un communiqué. Si on avait su, bah on l'aurait pas invité. En gros, voilà, Titu. Une autre petite brève. Allez, cette fois-ci, nous partons à Rio. Faisons le tour du monde avec Quasar. Qu'est-ce qui s'est passé à Rio ? Allez.
Je sais pas, le carnaval.
Mais bien sûr, mais voilà, mais bravo. Violence policière, discrimination raciale ou sexuelle, corruption, catastrophe environnementale, tout y est passé pour cette édition du carnaval de Rio, qui se tenait alors que le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est au pouvoir depuis un peu plus d'un an. Les 6 dernières écoles de samba devaient se succéder jusqu'à l'aube mardi sur l'immense avenue du Sambodrome devant plus de 70 000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs. Le carnaval, c'est l'occasion pour s'exprimer contre tout ce qui ne marche pas dans le pays, a dit Jacqueline Feitosa-Simoes, percussionniste de l'école São Clemente. Les 13 écoles en lice, lors de ces deux nuits de défilé, se disputaient le titre très convoité de championne qui sera annoncé, enfin qui a été annoncé donc hier, et c'est São Clemente qui a gagné. La championne en titre, Mangueira, a encore marqué les esprits dans la nuit de dimanche à lundi avec un défilé mettant en scène un Jésus noir venant apporter la paix dans une favela où il danse avec ses disciples jusqu'à l'intervention brutale de policiers armés de matraque. Plusieurs écoles ont ainsi dénoncé les opérations policières qui ont fait plus de 1800 morts l'an dernier, soit environ 5 personnes par jour sous un gouvernement qui avait promis de réduire la violence endémique au Brésil. Mais ils ont aussi critiqué la façon de traiter les LGBT du gouvernement Jair Bolsonaro, avec aussi et toujours des danses, de la samba et des percussions. C'est pas beau, ça ? Alors, un peu de cinéma. Judy. Vous connaissez Judy ?
Non.
Judy Garland. Avec Renée Zellweger. C'est l'icône absolue de génération de gays. C'est vrai que tous les gays à qui j'ai parlé connaissent Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, tout ça. Évidemment, le rainbow, l'arc-en-ciel, enfin, tout le bazar. C'est un film de Rupert Gould. Et Renée Zellweger y est, semble-t-il, en tout cas, exceptionnel. Alors, quelle icône n'a pas son biopic, pardon. C'est un peu la question qu'on imagine récurrente dans les bureaux des productions de cinéma anglo-saxonnes. Après les succès de ces dernières années de Bohemian Rhapsody, qu'il n'a pas vu.
Oui, bah, qu'il n'a pas vu, je ne sais pas.
Mais... ou de Rocketman.
Oui,
Elton John, c'est absolument incroyable quand même. Oui. Voilà. Idole de plusieurs générations et principalement des gays, Judy Garland ne pouvait pas y échapper. Le film, qui est consacré à l'une des plus grandes stars d'Hollywood, n'est pas exempt bon de défauts, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours, semble-t-il, un peu de longueur et puis un peu beaucoup d'alcool. Et puis, enfin, on montre la désillusion et tout ça, la chute. Mais bon, sérieusement... il semblerait que c'est quand même un film extraordinaire. Alors bon, on va tous aller le voir en quart et on vous en reparlera la prochaine fois.
Pourquoi en quart?
Parce qu'on va être très nombreux. Ah. Alors bon, maintenant Hong Kong.
Tiens donc.
Décidément, voilà. Hein. Alors, Denise Ho. Vous n'en avez pas entendu chanter, j'imagine, mais c'est une chanteuse activiste hongkongaise. Et en fait, en ce mois de février, on aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel, enfin le printemps, quoi. Mais quoi que là... Encore une poussée d'hiver. Committee, donc... Il y a Committee qui appuie les événements de Hong Kong. Donc, Committee nous parle de lesbiennage et de comment elle s'appelle, Denise Ho, pardon. Donc, flûte. Il y a une banderole qui a été créée en 79. À San Francisco et qu'on a revu à Hong Kong. A day without lesbians is like a day without sunshine. Un jour sans lesbiennes est comme un jour sans soleil. C'est chouette.
Et on l'a revu quand, cette
banderole ? Et on l'a revu donc à Hong Kong pendant les parapluies jaunes et puis toutes les manifestations. Donc, à cette époque, il y avait une chanteuse ultra-réactionnaire, Anita Bryant, qui menait une féroce croisade contre les existences et les droits des lesbiennes. Et deux saillies homophobes avaient déclaré cette platitude. Un petit déjeuner sans jus d'orange, c'est comme une journée sans soleil, détournée par la suite, donc, par les lesbiennes de l'époque. Un jour sans lesbiennes, etc. Chaque mois, donc, chaque mois, à Hong Kong, ils prennent un sujet particulier pour le mettre en exergue. Et ce mois-ci, bah, c'est Denise Ho, l'une des premières personnalités hongkongaises à s'être déclarée ouvertement lesbienne, évidemment détestée à Pékin, est devenue l'un des visages principaux de la contestation à Hong Kong. Le malheur pour Denise Ho, c'est qu'elle ne pourra plus jamais jouer en Chine. Elle a tout perdu à cause de ça. Déjà, elle est lesbienne et en plus, elle est avec la contestation hongkongaise. Autant dire que en Chine, c'est mort.
C'est
fini. Nous annonce une activiste hongkongaise qui s'appelle Glacier Kwong et qui est proche de Joshua Wong, qui est la figure du mouvement Occupy Hong Kong. Désormais, elle est installée à Hambourg, Denise Ho, en Allemagne, où elle conserve des liens étroits avec le mouvement social. Il est très rare, poursuit la jeune femme, d'être à la fois une chanteuse aussi populaire, parce qu'elle a énormément de succès en Chine, et une fervente défenseuse des droits humains. Elle est de loin la plus visible, elle a sacrifié sa carrière pour ses convictions politiques. Et là, ben, chapeau.
Et puis soutien. On pense aux LGBT dans le monde et dans des pays moins faciles que les nôtres, même si...
Et câlin, évidemment. Et alors, une dernière news, parce qu'il est 20h23. Le cabaret transformiste de Montmartre ne fermera pas. De quoi parle-je ?
De chez Michou.
Mais oui ! De chez Michou. La nièce de Michou a annoncé donc aujourd'hui qu'elle reprend la gestion de l'établissement. Alors Michou avait dit que ça ne resterait pas ouvert sans lui. Mais bon, on a décidé de continuer la route. Le cabaret va rester ouvert puisque j'ai la chance de pouvoir le faire. On va le faire parce que c'est une fierté, a donc affirmé Catherine Cathy, la nièce de Michou, l'homme aux célèbres lunettes qui est mort le 26 janvier dernier.
Eh bien, tant mieux, parce que ça fait partie du patrimoine aussi de ce pays.
J'ai eu peur qu'il est mort le 26 janvier dernier. Eh bien, tant mieux. Bah non.
Tant mieux que ce cabaret continue d'exister. Y es-tu allée, Anne?
Non, moi je ne suis allée qu'à l'Alcazar. C'est pas mal.
Autre
déjà.
Oui, certainement. Alors, on va rappeler qu'on est toujours sur l'antenne de Radio Gribouille, Radio G, oh, mais j'y arriverai un jour, 101.5 FM.
Ça va, papy?
Et vous écoutez Quasar on the Air jusqu'à 21h. Et puis à présent, Achille, on va vous parler de la condition des livreurs de repas, alors Uber Eats, Deliveroo, etc. Pourquoi on va vous en parler? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parmi eux, maintenant c'est plus un secret, les élus locaux en ont parlé récemment et c'est justement à cette occasion qu'on a voulu, nous ce soir avec Achille, en parler, eh bien il y a parmi eux des demandeurs d'asile. On le dit ici parfois, hein, les demandeurs d'asile sont très nombreux, plus de 30% à ne percevoir absolument aucune aide et pas loin de 90% à ne bénéficier d'aucun logement. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes dans un pays inconnu sans aucune ressource et sans logement, il faut vous débrouiller. Donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est que par l'intermédiaire d'une relation, d'une connaissance, vous allez pouvoir utiliser son compte pour travailler en effectuant ces livraisons de repas. Et nous, on est bien placés à Quasar pour savoir que parmi ces demandeurs d'asile, il y a un grand nombre, évidemment, de demandeurs qui donc souhaitent un statut de réfugié à raison des persécutions subies dans leur pays liées à leur orientation sexuelle. Et moi, quand j'ai commencé à accompagner des demandeurs d'asile, j'étais un peu surpris, en effet, de m'apercevoir que j'en croisais de temps en temps sur des vélos avec une sacoche Uber Eats ou Deliveroo. En plus, c'est socialement pas un truc que j'approuve, hein, ces livraisons de vélo, parce qu'on sait, même quand on le fait sous son propre nom, que de toute façon c'est une exploitation, hein, la société Uber exploite des gens, et la nouvelle économie que l'on nous a annoncée, qui devait révolutionner le monde du travail, en fait crée de la précarité. On a maintenant des travailleurs pauvres. Uber Eats contribue énormément à créer ces travailleurs pauvres. Malgré tout, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, ils n'ont pas d'alternative, ces gens. C'est-à-dire que si ils n'utilisent pas ce moyen, ils ne vont pas avoir d'argent, ils peuvent pas bouffer. Comme il n'y a pas de logement, il faut qu'ils trouvent auprès de connaissances à pouvoir se loger. Et on leur réclame souvent un loyer qui peut aller jusqu'à 150-200 €. Donc, de toute façon, ils n'ont pas d'alternative, il faut bien qu'ils bossent. Et il faut même qu'on précise, Achille, peut-être que tu me le confirmeras, parce que tu connais quelques livreurs Uber Eats, toi aussi, que la police à Angers est plutôt même bienveillante à leur égard, puisque quand elle les déloge d'un endroit parce qu'ils sont trop nombreux, il y a un attroupement trop important qui gêne la circulation sur un trottoir, la police leur dit, bon, allez vous mettre ailleurs parce que là c'est pas possible. En attendant, le discours, il est pas de les sanctionner, et puis la police leur dit parfois, de toute façon c'est très bien, vous avez pas les papiers pour bosser, mais on préfère que vous fassiez ça plutôt que de trouver d'autres moyens qui seraient Exactement. Donc comme quoi, on est là dans un système qui est extrêmement hypocrite. Alors quand un élu local, que pourtant j'apprécie par ailleurs, se réjouit d'un article qui nous annonce qu'il y a eu des contrôles à Nantes, donc il déclame le scandale des livreurs à vélo à Nantes. Lors de ce contrôle, un livreur sur deux travaillait sous une fausse identité exploitée. Quel observateur pense qu'il en va différemment à Angers? Quand va-t-on mettre les moyens pour faire cesser cette exploitation de la misère? Alors, il a raison quelque part, hein. Ça, c'est sûr qu'on aimerait mieux que ces personnes aient d'autres solutions pour subvenir à leurs besoins, mais j'ai regardé le programme, parce que déjà je l'ai interpellé, hein. Je lui ai répondu, je lui ai dit, je suis bien conscient pour certains cette manne financière, non pardon, je lui ai répondu, vous devriez plutôt œuvrer pour que les demandeurs d'asile puissent avoir le droit de travailler, oui ils sont exploités, oui c'est insupportable, mais quelle alternative quand plus de 30% d'entre eux ne perçoivent même pas l'ADA et plus de 90% ne sont pas logés.
Tu expliques aux néophytes
l'aide pour les demandeurs d'asile. Donc j'ajoutais, les stigmatiser et faire en sorte de les priver de cette ressource n'est vraiment pas la meilleure manière de les aider, mais peut-être est-ce que ce que vous recherchez, puisque c'est dans l'air du temps. Et il m'a répondu, je suis bien conscient que pour certains, cette manne financière, même obtenue dans des conditions douteuses, est une soupape. Ce ne sont pas eux que je stigmatise, mais tous ceux qui ferment les yeux et laissent perdurer cet état de fait. Nous avons dans notre programme un projet de création de structures pour gérer cette problématique et mettre fin à cet asservissement. Alors, comme on est dans une période où je ne peux pas parler, je vais ni citer le nom de ce candidat, je ne vais pas parler des programmes, mais je l'ai quand même épluché, son programme. Et en fait, il dit la même chose, même que le ministère de l'Intérieur, ils vont créer des structures, ils vont créer des places, et puis en fait, il n'y en a jamais assez, et il n'y aura personne pour accueillir ces gens et pour leur apporter une autre manière de subvenir à leurs besoins. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que plutôt que de contrôler et de sanctionner des gens qui cherchent à survivre par des moyens qui rendent service à d'autres, on ferait mieux, en effet, soit de s'attaquer à Uber Eats, qui exploite de toute façon légalement, elle, et sans complexe, des travailleurs, ou alors on propose de véritables alternatives, mais j'en ai pas vu dans le programme. Achille, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce sujet ?
Merci Arnaud. Ce que je peux ajouter à ça, c'est pour certaines personnes que j'ai rencontrées par rapport à Uber Eats, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les immigrés, certes, ils travaillent sous la casquette d'une autre personne et quelque part, ça leur aide beaucoup, beaucoup, et ça leur évite de faire certaines choses qui vont peut-être à l'encontre de l'État ou des autorités, parce que certes les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas du tout confortables, mais ils parviennent quand même à travailler sous la pluie comme sous le froid. Et quelque part, c'est pour se nourrir, c'est pour se vêtir, c'est pour subvenir à leurs besoins, et de ne toujours pas rester attendre tout venant de l'État,
des aides sociales
et tout. Ils se battent, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont d'abord l'amour du travail et qu'ils veulent vraiment s'intégrer et subvenir à leurs propres besoins. Et aujourd'hui, ce que moi je peux dire par rapport à ça, certes, travailler illégalement, c'est pas bien.
Mais ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut subvenir à leurs besoins personnels. Et il y a d'autres qui sont là, qui ont laissé leur famille en Afrique. L'ADA, les aides qu'ils perçoivent ici, quelque part, ne suffisent pas. Et si aujourd'hui, peut-être, ils se mettent à faire Uber, c'est parce qu'ils veulent s'en sortir. Et ce qu'on doit faire, c'est de les accompagner. Une ou deux fois, j'ai interpellé quelqu'un qui a eu à me dire, voilà, la police, bien sûr, ici à Angers, qui nous disait, voilà, la police, quand ils reçoivent des plaintes, genre des populations qui disent que, voilà, ils squattent un peu de partout, ils font des attroupements, et ce qui n'est pas bien. Quand ils arrivent, quand la police arrive, ils ne passent pas au contrôle, genre qui travaille, qui a des papiers ou pas. Ils essayent tout juste de les sensibiliser, les demander et ce qui est bien. Et aujourd'hui, ce que moi je demande, c'est ce que moi je, par rapport à tout ça, ce que moi je déduis.
Vas-y, dis-nous.
Ah oui, c'est que voilà. Les migrants qui font Uber, sont ceux qui veulent vraiment s'intégrer et qui ont l'amour du travail. Ce qu'on peut faire, c'est de les aider dans cette optique-là et que de les rendre paresseux. Parce que afin de rester attendre les aides et tout, ça rend paresseux. Imagine quelqu'un qui fait 2 ans, attendre qu'il passe à l'OFPRA ou
la procédure, et tout.
Et s'il reste 2 ans de sa vie à ne rien faire, plus tard même quand il aura les papiers, il aura des difficultés à travailler parce qu'il
n'est plus dans le rythme.
Donc là, je crois que c'est pour se maintenir d'abord personnellement. Et ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner et de les aider dans...
Absolument. Et puis, ce qui pourrait être fait aussi, c'est de permettre aux demandeurs d'asile de travailler. Mais bon, ça, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, ça l'est par arrêté préfectoral parfois, hein, puisqu'il y a du côté du Mans, la préfecture du Mans autorise le travail au bout d'un certain temps. En tout cas, chez nous ici, il faudrait avoir l'autorisation de l'OFPRA après 9 mois d'attente, et cette autorisation ne viendrait vraisemblablement pas, même avec une promesse d'embauche. Donc la situation, elle est insoluble aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acte natif pour beaucoup de demandeurs d'asile. Eh bien, c'est d'être livreur de repas.
Mais qu'est-ce que tu sais rapidement, enfin, est-ce que tu as des stats sur les autres villes? Parce que nous, bon, nos policiers sont vraisemblablement assez sympathiques et compréhensifs. Est-ce que c'est pareil ailleurs? Parce que tu as dit ils ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. En gros, enfin, il y en a qui ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Je suppose qu'il y en a aussi qui ne travaillent pas parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de se faire choper et ils ont peur de se faire renvoyer chez eux.
Oui, c'est ça aujourd'hui.
Je pense qu'il y a quand même ça. Alors à Angers, bon, on a de la chance, la police est vraiment très bien.
Je pense qu'il en était de même à Nantes auparavant, et que là on est en période d'élection municipale, donc tout d'un coup voilà, il y a un élu qui veut faire un coup d'éclat en dénonçant ça, voilà, parce que c'est bien, c'est dans l'air du temps, donc on n'est pas à l'abri non plus sur Angers, puisque c'est même ce que réclame cet élu, qu'il y ait plus de contrôle. Alors après, je pense pas que ce soit le livreur en lui-même qui va avoir des ennuis, parce que de toute façon, encore une fois, la police le sait et un tribunal le prendra en compte, ils n'ont pas le choix. Par contre, évidemment, celui qui est à l'autre bout, qui est détenteur du compte Uber, lui risque d'avoir des problèmes, tout comme un patron qui emploie des gens, comme on dit, au black, quoi. Mmh. Donc voilà.
Enfin bon, on peut dire aussi, donc, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui se disent « ben moi je vais pas me montrer parce que j'ai pas envie de me faire renvoyer au pays ».
Oui, il y a aussi cette
peur. Tout le monde n'est pas aidé par Quasar qui explique bien les choses.
Oui, il y a aussi cette peur, mais après ça paralyse aussi. Imaginez quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de copine, qui vit seul, et il rentre tard le soir, il n'a pas le temps de faire à manger et tout, ou de s'arrêter dans un restaurant. Il a quand même cette facilité avec Uber de commander et de manger. Et s'il s'avère aujourd'hui qu'on coupe le pont-jar, parce que la majorité de personnes qui le font aujourd'hui, ce sont les travailleurs au black.
Exactement.
Et s'il coupe le tuyau, ça va pénaliser non seulement celui qui passe la commande.
Mais t'as raison, parce que...
Donc parce que s'il a une copine, surtout, bien sûr, il aura à manger parce qu'elle est faite pour ça.
Non, je dis que ce soit copain, ou copine, je dis tout juste quelqu'un à la base, quelqu'un avec... Tout c'est l'organisation.
Je blague.
Ah ouais, pas de soucis.
Tu viens de te faire avoir, Achille.
Non, je ne veux pas te faire avoir. C'est pareil, que ce soit... voilà. Donc, du moment où tu es seul et que tu n'as pas quelqu'un avec qui tu fais un programme, genre de... Toi, tu fais à manger, l'autre... voilà, et que tu vis tout seul. À un moment, il y a la fatigue. Et Uber t'aide quelque part.
Oui, enfin, bien sûr. Alors, il y avait d'autres solutions avant Uber, mais voilà. Bon, bah, aujourd'hui, il y a Uber. On peut considérer que c'est bien. En tout cas, ça permet à certains d'avoir des ressources pour survivre. Et je pense que c'est pas à ces gens-là, en tout cas, qu'il faut. Enfin, c'est pas ces gens-là qu'il faut attaquer, qu'il faut stigmatiser. C'est le système, soit, et là je trouverais très bien que les politiques s'en occupent, mais ils ont un petit peu moins de courage quand il s'agit de s'attaquer à des groupes comme Uber, etc. Donc, les demandeurs d'asile, c'est facile. Et puis, on va s'arrêter là parce que le temps passe.
Parce qu'il n'y a pas que les demandeurs d'asile qui ont des problèmes.
on te passe la parole.
Il y a aussi les femmes qui sont obligées de faire à manger le soir.
non, c'est pas les hommes aussi font à manger. Les hommes font très bien manger aussi.
Alors, on va parler de violence. Je sais, il n'y a pas que ça sans doute, mais quand même, on va parler de violence. On va parler des violences ici, en fait, par rapport au 39-19. 39-19, le numéro à appeler pour violence faite aux femmes. Donc, on a reçu les violences, les stats de 2018. Dites-vous bien que les stats de 2019 sont à peu près les mêmes, mais en augmentation. Alors, en 2018, le nombre d'appels pris en charge a augmenté de 15% par rapport à 2017. Ce numéro est assez récent quand même. Et il faut bien dire qu'il y a quand même quatre constantes. Les violences économiques, le manque de centres d'hébergement spécialisés, la violence des ex et les violences subies par les enfants. En 2018, donc le 39-19 a reçu plus de 66 000 appels, avec plus de 53 000 prises en charge téléphoniques. C'est donc une augmentation de 15% par rapport à 2017. 92% pour des motifs de violence conjugale, y compris le viol conjugal. 7% pour des violences sexuelles, plus 35% par rapport à 2017. Évidemment, il y a toujours un peu d'ajustement à faire sur le fait que le numéro est plus connu, etc., etc. Mais quand même, plus 35. 1,1% des violences sexuelles au travail, plus 82% par rapport à 2017. 0,2% pour des motifs de mariage forcé et 0,1% pour des mutilations sexuelles. Je vous parle de la France. Alors, les mutilations sexuelles, c'est l'excision. On en a beaucoup parlé ces derniers temps parce qu'une pauvre gamine, une pauvre jeune ado est morte sous le bistouri d'un soi-disant médecin qui a pratiqué une excision et qui l'a tuée. Voilà, ça, bon, je ne suis pas très... L'origine des appels, 73% viennent d'une femme victime, 13% des membres de sa famille, 10% des proches, donc les amis, les voisins, 2% de professionnels, 2% d'autres personnes et 0,2% des auteurs des violences. C'est-à-dire que les auteurs des violences, 0,2% des auteurs de violences, enfin, des appels reçus, proviennent d'auteurs de violences qui apprennent le 36-19 pour dire qu'ils ont été violents. Mais dans la très grande majorité des cas, une femme victime d'un homme auteur de violences, attention, 98% des appels concernent une femme victime, et dans 99% de ces situations, l'agression est perpétrée par un homme. Il y a 1% qui n'est pas perpétré par un homme. 37% des femmes victimes de violences conjugales ont déclaré avoir connu la plateforme d'écoute grâce aux recherches effectuées sur Internet. Les femmes sont peu orientées par les professionnels vers le 39-19, même les professionnels constatant des signes de violence. C'est terrible parce que ces histoires-là sont une question de maintien de pouvoir de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Souvent un homme sur une femme. L'inverse arrive aussi. Et deux femmes, ça arrive aussi. Les violences économiques. Seulement 51% des victimes ont un emploi. Donc elles ne sortent pas, en fait. Très peu. Il y a 94% des enfants qui sont exposés aux violences et 26% sont eux-mêmes maltraités. Ce sont des co-victimes. Un an après la rupture, la violence continue dans 47% des cas. Elles veulent fuir. Mais où ? La question du logement est évoquée dans 83% des écoutes. Il y a donc les violences économiques. l'emploi, les ressources, les violences économiques et administratives, l'hébergement instable, une précarisation due aux violences qui freinent les démarches juridiques, empêchent la sortie de la violence et la reconstruction. Des différences significatives sont constatées entre auteurs de violences et victimes, en comparaison à la population générale. Les femmes victimes sont moins en emploi, ont moins de ressources et plus d'interruptions dans leur vie professionnelle que les auteurs des violences. Frein à l'autonomie et violences économiques sont des éléments récurrents dans les violences conjugales. Elles maintiennent la victime dans une situation de dépendance et se poursuivent souvent après la séparation. 29% des victimes sont sans emploi ou au chômage, contre 15% pour les agresseurs. Tous les groupes socio-professionnels sont représentés. Les violences conjugales affectent l'ensemble des femmes, quel que soit leur groupe professionnel d'appartenance et leur statut d'activité. Lorsque les emplois sont précisés par les victimes, on note pour les employés 35% de victimes et 27% d'agresseurs. Une surreprésentation des agresseurs chez les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 17% des auteurs, 10% des victimes, ainsi que chez les ouvriers, 20% des auteurs, 5% des victimes. Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 22% des victimes et 25% des agresseurs. On ne peut donc pas stigmatiser une catégorie de population dans le cas des violences faites aux femmes. Le taux d'emploi des femmes, donc, de nationalité, des femmes de nationalité étrangère est de 32%. Pour le lieu de résidence, 19% des femmes déclarent une situation d'hébergement complexe, hôtel, 115, à la rue, chez un tiers, domicile du partenaire, autre. 58% des victimes veulent quitter le domicile conjugal, 19% seulement souhaitent le départ du partenaire. 21% des victimes ont effectué plusieurs départs de domicile habituel. Suite aux violences conjugales, 165 femmes ont été mises à la porte par leur agresseur. Les violences économiques sont révélées par 21% des victimes. Pour 49% d'entre elles, la moitié à peu près, il s'agit de chantage économique. Pour un quart, 26%, dénoncent une non-participation aux charges et un contrôle des dépenses. 39% ont révélé être dépossédés de leurs ressources financières et ou des moyens de paiement, subtilisation et confiscation. 173 femmes victimes ont déclaré avoir l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Donc ça amène de la précarité et du chantage. Il n'y a pas seulement les coups de poing dans la figure. Malgré les violences conjugales, dans près d'une situation sur 10, l'enfant réside pourtant chez le père, 6%, ou est en résidence alternée. Et c'est une histoire sans fin. Souvent, la violence ne s'éteint pas après une rupture, y compris pour les violences sexuelles. 22% des victimes dénoncent les violences de leur ex-partenaire. Et 47% des victimes ont déclaré que les violences se poursuivent plus de un an après la rupture. L'auteur des violences est le partenaire régulier de la victime dans 78% des cas. Dans les deux tiers, les victimes résident avec le partenaire violent. Pour 43% de ces situations, la relation avec ce dernier dure depuis plus de 10 ans. En 2018, 8% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, dont 57% de viols conjugales. En moyenne, les victimes subissent deux formes de violences sexuelles. Alors, il y a une affiche qui est vraiment extra. C'est quelque chose qui est écrit, des lignes qui sont écrites et qui s'estompent doucement. Ça commence par « Je t'aime, t'es tellement belle, t'es où mon amour ? Tu rentres quand ? Rentre à la maison, tu fais quoi ? Réponds, rentre tout de suite, t'es avec qui ? Tu vas le regretter, je te retrouverai. » Et c'est ça, c'est principalement ça. On a donc un besoin urgent de centres d'hébergement spécialisés. Après les violences, la reconstruction d'une femme et de ses enfants implique une mise en sécurité et une chaîne de compétences spécialisées dans des lieux spécifiques pour femmes victimes de violences. L'hébergement en centre généraliste mixte, hommes et femmes, dans des lieux où sont reçus tout public, sont inadaptés et source de victimisation secondaire. Des équipes professionnelles multidisciplinaires, psychologues, assistantes sociales, juristes, formés et expérimentés, permettent un suivi, une reconstruction et une mise à distance des violences à long terme. Après tout ce que vous venez d'entendre, vous comprenez pourquoi. La cohabitation ou non avec l'auteur des violences constitue un enjeu important dans le parcours de sortie des violences conjugales. Près de 83% des victimes de violences conjugales ont abordé la question du logement lors de l'entretien d'écoute. Lors de l'appel, plus de la moitié des femmes victimes de violences conjugales occupent encore le logement du couple ou celui du partenaire. 56%. Moins 2 points par rapport à 2017. Et voilà, c'est ça, la violence contre les femmes. C'est quelque chose qui est interne, caché, généralement, et qui, pendant des années, n'a pas été, on va pas dire pris au sérieux, mais enfin si, quand même, un petit peu, par les autorités juridiques, la police, etc. Et surtout, et les voisins, ou les gens qui étaient à côté, ou les gens qui voyaient la femme victime de violences conjugales évidentes, soit ne voulaient pas se mêler des affaires des autres, soit ne voulaient pas être embêtés. Et maintenant, on note de plus en plus que, heureusement, des gens n'hésitent pas, parce qu'il y a ce fameux numéro, donc 3919. Pourquoi 3919 ? Parce que le 3 septembre 2019, une vaste campagne de communication a été engagée pour faire connaître ce numéro, le 3919, qui existait avant cette date, mais ils ont choisi cette date pour qu'elle devienne quelque chose de symbolique. Sur Instagram, elle s'est traduite par une mobilisation créative en images. Alors, si vous avez Instagram, il y a des dizaines de créations photos, vidéos, dessins, etc., etc., que vous allez pouvoir retrouver. Songez-y, si vous entendez des cris à côté de chez vous, ben, c'est peut-être que votre voisine est en train d'avoir des ennuis. Il vaut mieux appeler le 3919, pour rien, si on veut, que ne pas le faire. Voilà. Eh ben, écoutez. Et la deuxième partie de cette histoire de femme ce qui va se passer à Angers aux alentours du 8 mars. Voilà.
Très bien. Bah, dans un instant, en fait, on va pas faire de pause musicale. Je vais faire la pause musicale. Hein, c'est moi qui vais être le petit moment de détente donc de l'émission. J'ai dit détente. Hein.
Seul mot, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Je voulais en fait revenir sur l'affaire Mila, une jeune fille de 16 ans qui a refusé les avances d'un jeune homme qui, une fois éconduit, s'est mis à l'insulter de tous les noms, et de sales lesbiennes, hein, bien entendu, parce que c'est bien connu qu'une femme, une jeune fille qui se refuse à un mec est forcément homosexuel. C'est comme le gars du service informatique dont on apprend qu'il est homo. Tous ses collègues masculins se sentent subitement menacés. Ils craignent tous qu'il leur saute dessus, même le laidron de la compta. Mais revenons au petit con des réseaux sociaux. Mila d'abord, parce qu'elle a dit dans son live sur Instagram, les rebeux, c'est pas mon style. Alors, soit Mila, mais à 16 ans, tu ne peux pas dire, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, les rebeux, c'est pas mon style, c'est un peu raciste et vraiment très con. Franchement, vous connaissez, vous, le style rebeux, le style noir, le style blanc ? Ça veut rien dire. Et que l'autre, blessé par la remarque, embarque ses potes pour harceler une jeune femme, c'est lâche et ça ne fera pas avancer Mila vers la fontaine. Alors, qui dit rebeux sur les réseaux sociaux ? Dit religion, musulman, islam et bam ! Paix et amour, plutôt déchaînement de propos violents, menaces de viol, de mort, divulgation de l'identité de Mila et de l'adresse de la jeune fille, déscolarisation, protection policière, puis carrément arrive l'enfer avec l'extrême droite, les FAF et Zemmour qui prennent la défense de la jeune ado dont la vie vient de basculer. Mais justement, à part l'extrême droite, contente de profiter de cette affaire, qui s'est offusqué ? Qui a déploré les milliers de menaces de viol et de mort reçues par une adolescente ? Pas grand monde. En tout cas, pas beaucoup de ceux qui avaient manifesté en arborant un « Je suis Charlie » après le 7 janvier 2015. C'est vrai que la caricature faite par Mila de l'islam manquait de finesse, d'intelligence et c'était même un peu vulgaire. Donc, je ne la comparerais pas à Tinius, Charb ou Honoré, quoique. De même que les haters ne sont pas des petits frères Kouachi, mais pour la plupart juste des petits cons stupides. Il n'empêche qu'après plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux, une avalanche de haine et d'appels au meurtre, où étaient les politiques et les personnalités qui défendaient le droit à la caricature et la liberté d'expression il y a encore 5 ans ? Qui a rappelé que dans ce pays, on a le droit de dire que l'on n'aime pas le Coran, la Bible ou le Talmud ? Pas l'extrême gauche en tout cas. La France Insoumise a répondu qu'elle était trop occupée sur le dossier des retraites. C'est Clémentine Autain en personne qui l'a dit, habituellement plus sensible à la condition des femmes menacées dans notre pays. Ni Ségolène Royal, qui a déclaré ne pas soutenir une adolescente qui manque de respect, et le responsable du Conseil français du culte musulman. Eh bien, a-t-il tenté, lui, de ramener tout ce petit monde à la raison ? Eh bien non. Pire, il a déclaré le 24 janvier « Qui sème le vent récolte la tempête, Mila l'a bien cherché ». Et personne pour dénoncer de tels propos scandaleux et inquiétants. Aucune sommité pour tempérer, apaiser, parler du vivre ensemble et d'amour. Oui, ça manque d'amour tout ça. Il était temps que l'on arrive à la Saint-Valentin ce 14 février pour qu'enfin un homme politique nous parle à sa manière d'amour. Et quoi de mieux pour parler d'amour que de montrer sa teub en érection ? Alors merci, merci monsieur Benjamin Griveaux. Grâce à vous, tout le monde a parlé de pénis à la Saint-Valentin. Toute la France était rassemblée avec un même désir, voire une bite, la vôtre. Puis, très vite, la victime d'une revenge porn qu'il est, a été défendue par tous. Tous les hommes politiques, de tous bords, y compris ses adversaires, les journalistes, les chroniqueurs, les intellectuels de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, tout le monde a pris la défense de ce bon père de famille qui n'a fait que se palucher sous sa douche avec son mobile waterproof pour envoyer une dick pic à sa maîtresse. Alors là, on vous a entendu, messieurs, pendant 48 heures, on en a oublié la réforme des retraites. Ah, on a bien compris que vous aviez peur. On vous a vu bien soudés, messieurs, solidaires et d'une seule voix nous promettre rien de moins que la fin de la démocratie, parce que le chibre de l'un des vôtres est devenu public. Puis, dans la panique, on en a même entendu quelques-uns proposer l'interdiction des réseaux sociaux et beaucoup demander au moins la fin de l'anonymat sur Internet. En revanche, une fille de 16 ans menacée qui a dû déménager dans un endroit secret et qui dispose d'une protection policière parce qu'elle a dit qu'elle n'aime pas une religion, on s'en fout. Les femmes victimes depuis de nombreuses années de revenge porn sur les réseaux sociaux, on s'en fout. Le harcèlement sexuel, on s'en fout. Les ados poussés au suicide par leurs camarades sur Facebook, on s'en fout. Les épouses qui meurent sous les coups de leur mari, on s'en fout. La liberté d'expression, on s'en fout. Mais là, que de bruit pour une branlette et beaucoup trop de silence sur le besoin d'une certaine retenue, le besoin de sobriété, de décence, de pondération, trop de silence sur le besoin d'exemplarité de l'homme politique. Le populisme progresse, mais je suis désolé, Anne, pas la cause des femmes.
Oh, la cause de pas grand chose, mon Dieu, mais enfin. Allez, Journée internationale des droits de la femme, deuxième partie, j'en ai pour 4 minutes, c'est OK. Dans la continuité de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, et on attend encore, et pour les 25 ans de la promulgation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en 2018, dite de Beijing, ce 8 mars 2020 célèbre la Journée internationale des droits des femmes comme tous les ans et pour l'égalité. Au niveau international, l'ONU et tout particulièrement l'ONU Femmes donne le ton avec de cette journée avec le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». À l'occasion de cet anniversaire, l'ONU Femmes organise un forum mondial « Génération égalité » en faveur de l'égalité entre les sexes. Axé sur la société civile, il passera par Mexico et Paris. Localement, des associations font collectivement avancer la cause pour les droits des femmes et pour l'égalité des sexes dans le but de changer les comportements. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, mieux connu sous le nom de CIDFF, le Planning Familial 49, l'Union Régionale Solidarité Femmes et Espace Femmes, et ces associations d'ailleurs déménagent. Elles partent vers le pôle associatif Benoît Groux à la Roseraie. Réouverture de toutes ces associations sur leur nouveau site le 3 mars prochain à 13h30. Pour mémoire, Benoît Groux, morte à 96 ans en 2016, la lutte et la réflexion, ça conserve, était une romancière et essayiste et grande figure du féminisme. En avril, vous savez ce qui va se passer en avril à Angers ? Le championnat du monde féminin de hockey sur glace.
Ben, c'est super, écoute.
Et ça sera, et ils vont en profiter pour valoriser dans ce cadre le sport féminin d'une façon générale.
Très bien, alors on croise les doigts pour que les manifestations ne soient pas toutes interdites dans les semaines à venir, pandémie oblige, on croise les doigts.
Oui, oui, mais bon, en avril, non mais là elles seront sur la glace, c'est bon, ça va aller. En juin, la fondation Agir contre l'exclusion lancera son défi de la mixité et le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'espace public sera mis en question parce que c'est bien un exemple concret en matière de réflexion sur l'égalité des sexes et l'inclusion. Alors, autour du 8 mars, là maintenant, tout de suite, à la bibliothèque de Montplaisir, pour encore 2 jours, demain et après-demain, il y a une exposition, Les filles, osez les sciences. C'est une exposition pour découvrir des portraits de femmes scientifiques, des parcours et des métiers scientifiques et techniques. Une petite pensée pour Katherine Johnson, figure de l'ombre à la NASA. Alors, avec en plus samedi une animation, science, elles n'ont pas de genre, quiz et jeux autour des thèmes des sciences, des inventions, des inventeurs, des inventeuses. Venez en famille, tous les horaires, bibliothèque de Montplaisir. Visite au musée Jean Lursa de la tapisserie contemporaine pour un regard particulier sur la création textile des femmes des années 80 à nos jours dans le cadre de l'exposition Collection, Collection. Ça, c'est mardi 10 mars à 17h30, ça dure 1 heure, l'entrée est libre et gratuite sur réservation. Vous trouverez tout ça sur le site de Jean Lursa. Conférence à l'Institut municipal, les féministes de la première vague, de la fin du 19e à la fin des années 30, le 4, de 18h à 20h. Rencontre, 2 soirées avec les Noxambules, les 4 et 5 mars à 20h30, de 20h30 à 0h30, une déambulation, puis des échanges. Et tout ça, c'est place du ralliement. Et puis, du 2 au 25 mars, le 4e mois du genre. Créé en 2017, le mois du genre est une manifestation imaginée par le programme de recherche Genre et discrimination sexiste et homophobe. Pendant tout le mois de mars, il y a des événements. Vous retrouverez ça sur le site de l'Université d'Angers et vous cherchez culture et technique.